Bonjour Serge, nous sommes autour d'un café pour la sortie de votre documentaire prévu le 14 mai. Dans ce film, vous racontez comment vous êtes parti sur les traces de vos ancêtres dans un village donc à proximité de Boursa qui est nommé Soleuse. Vous avez intitulé votre documentaire « Nous avons bu la même eau ». Je ne sais pas si vous connaissez cette expression, mais il existe une expression turque selon laquelle un café vaut 40 ans d'amitié. En est-il de même pour l'eau? Êtes-vous parti pour 40 ans d'amitié avec les habitants de Soleuse que vous avez rencontrés?
J'espère, parce que le temps est extensible, j'espère vivre assez longtemps pour... Parce que 40 ans, ça m'amène loin quand même, hein. Je suis plus tout jeune, mais pour suivre les générations des Solosti, comme disent les Arméniens, c'est-à-dire les générations à venir dans ce village de Soleuse, qui en a vu passer, puisque avant les Arméniens, c'était les Byzantins qui y étaient, et puis il y a eu pendant 400 ans quand même les Arméniens, et puis après, ce sont les Pomaks de la région de Drama qui ont été invités à s'y installer, et qui après eux, c'est la question que je pose, peut-être le film pose cette question peut-être, c'est-à-dire que les déplacements de population sont au cœur du film, plus que les faits historiques, même s'ils sont évoqués de façon marquante dans le film, je pense que j'ai eu envie plutôt d'aller faire les gens, de comprendre qui ils étaient, qu'est-ce qu'ils faisaient là, d'où ils venaient, comment ils vivaient leur présent et comment ils ont vécu leur passé. C'est, je pense, une des originalités de ce film. Et peut-être son questionnement aussi sur le temps que vous disiez. Alors, comme j'ai bu et du café et du raki, et du thé, et tout ce que boivent les gens de Soleuse, j'espère qu'en effet que cette amitié va continuer, d'autant que nous avons un projet en commun qui est ce musée des pierres tombales arméniennes qui m'a été proposé par les jeunes de Soleuse. Je ne sais pas quand il verra le jour et de quelle façon, mais on pourra en parler.
Très bien, on va commencer peut-être un peu de manière chronologique par votre film, par rapport à la naissance de ce projet justement. Comment est-ce que vous est né ce projet de documentaire? Est-ce que vous aviez vraiment pensé dès le départ à faire un partage avec le public sur l'histoire, ou c'était vraiment plus un projet personnel qui est né de votre invitation au festival donc international du théâtre d'Istanbul en 87? Et puis finalement, est-ce que l'occasion n'a pas fait le larron? C'est-à-dire qu'en allant là-bas, vous vous êtes dit, je retourne sur les terres de mes ancêtres, donc je vais peut-être filmer quelque chose.
Oui, il y a cette expression française, le hasard et les nécessités. Je pense qu'au départ, c'est une nécessité de capter l'image, d'y aller, de la volonté d'y aller, de retourner sur les lieux, comme on dit. Et l'occasion m'en a été donnée donc en 1987, ça remonte quand même à maintenant 20 ans, plus de 20 ans, où je suis un jeune cinéaste, j'ai déjà fait quelques documentaires justement sur l'histoire des Arméniens, j'ai déjà réalisé avec Jacques Kebadian Sans retour possible pour France 2, enfin à l'époque ça s'appelait Antenne 2, deux fois 52 minutes, sur le témoignage des anciens, tout ça, de ceux qui avaient vécu le génocide. C'était un film très important pour nous, mais aussi pour les gens qui ne connaissaient pas ces récits, ce parcours, et cette génération a disparu aujourd'hui. Après, on avait fait un autre film qui s'appelait « Que sont mes camarades devenus ?», qui était mon retour en Arménie soviétique, où je suis né. Donc l'histoire est compliquée, hein, vous voyez, on voyage entre diaspora, Arménie, bon, c'est en tout cas mon histoire. Et cette complexité fait que je pense qu'une fois que j'avais, mine de rien, aujourd'hui je le sais, je ne le savais pas à l'époque, j'avais quand même fait un travail sur la diaspora, globalement en France, j'avais fait un travail sur l'Arménie soviétique, puisque j'y retournais 13 ans après, il me restait quoi comme lieu à explorer? C'était la matrice de là où j'ai dû être engendré dans la famille Avedikian, donc Soleuse, donc près de Boursa. Et il se trouve que, étant à Istanbul, j'ai pas pu m'en empêcher. Franchement, ça a été plus fort que moi, malgré que c'était une période où la Turquie était très policée, c'était une période dure, je le sentais, c'était palpable, mais, comme je dis dans le film, j'ai eu la chance de rencontrer une Arménienne dans l'avion, qui m'a aidé, qui m'a encouragé à le faire, et puis j'ai rencontré ce copain photographe, Joseph Morando, qui m'accompagnait, j'étais pas seul, parce que seul, peut-être que j'aurais eu la trouille, comme on dit, et ben voilà, on a pris le bateau, on est parti. Et franchement, je ne savais pas ce qui m'attendait, franchement. Je savais que Soleuse était un village particulier, qui avait sa particularité, ses richesses. Il y avait eu des fabriques de verre à soie. Je savais que c'était un lieu assez riche en souvenirs, que les Arméniens y avaient été très installés, très prospères. Mais je ne savais par exemple pas que j'allais trouver des pierres tombales, comme dans la première partie du film, ces marches comme ça posées, ces terrasses et tout ça. Et aussi, je ne savais pas que j'aurais ce double accueil, c'est-à-dire à la fois un accueil relativement chaleureux de la part du rebouteux, du collectif, de Chefquet Bachol, que je retrouverai donc plus tard dans le film, à deux reprises, et du maire, que je retrouverai aussi 15 ans plus tard. Ça, c'est aussi le hasard et les nécessités des films documentaires. On sait pas, on va à la pêche un peu, on ne sait pas ce qu'on va trouver. Et d'avoir ce double accueil, c'est-à-dire à la fois très chaleureux, très humain, très fort, et à la fois la loi, quoi, c'est-à-dire un maire qui vous dit pas le droit de montrer ça parce que c'est une honte, ces pierres doivent pas être là, ils devraient être ailleurs. Il assume verbalement, mais ils ont rien fait, ils étaient là depuis 1923, on est en 1987, voilà. Donc c'est comme ça que ça démarre, mais au départ, ce que je filme est une frustration, parce qu'à ce que j'ai de 87, je ne peux pas faire un film, c'est trop peu. Et on a failli faire un livre, avec les photos noires et blancs qu'on voit dans le film, qui sont très très belles, parce que Joseph est un garçon talentueux, et puis ça s'est pas fait non plus, parce que Françoise Verny, à l'époque, Flammarion, je crois, m'a demandé d'écrire 100 pages, et 100 pages, j'étais incapable d'écrire 100 pages, sur cette histoire qui était fulgurante, chaleureuse et forte, mais j'allais pas fantasmer dessus sur 100 pages, j'en avais écrit 20, donc voilà, ça s'est pas fait, ça a dormi. Puis il y a eu ces 15 années de passé et cette nouvelle invitation avec un film. Comme quoi être cinéaste, d'une certaine façon, sert probablement à tisser aussi des liens inattendus, pas seulement ceux d'un film qu'on fait et d'un public, mais c'est aussi des lieux. Le festival de Boursac est un festival européen et itinérant qui se tient, je crois, à Izmir, à Bursa, à Ankara et à Kars, qui traverse le pays comme ça. C'est un très bon festival, justement, qui réunit des films européens et qui traverse la Turquie. Aujourd'hui, je trouve que c'est vraiment un festival d'ouverture, quoi, de courts-métrages et de quelques longs-métrages. M'invite avec ce film, qui plus est, s'appelle Ligne de vie. Mon film s'appelle Ligne de vie. C'est un film d'animation assez dur, d'ailleurs, sur la liberté de l'expression et tout ça. Et il se trouve que ce film va à Bursa, et je suis invité. Et là, je me dis, c'est un vrai cadeau. C'est un appel, je peux pas. Et là, j'y vais un peu plus préparé, donc voilà, c'est pour le deuxième voyage. Et déjà, le film devient un peu plus palpable. Je me dis qu'il y a une possibilité de faire un film. Et d'autant plus que je sens que la population de Soleuse ne m'a pas oublié, c'est-à-dire qu'on me reconnaît, et non seulement il ne m'a pas oublié, mais il est content de m'accueillir. Et le maire n'était pas là, justement, à cette époque-là, en 2003. Il n'était pas dans le village, il n'était pas maire. Il devait y avoir des élections après, je crois. Et donc, je retrouve le rebouteux, Chefquet Bachol, qui m'accueille de nouveau très chaleureusement et qui me montre d'autres pierres tombales, alors que je constate que ceux que j'avais vus 13 ou 14 ans avant, ils ont été évacués, bétonnés, tout ça. Je me dis, encore une fois, il y a un double langage, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui ont la volonté de vouloir déterrer le passé et de dire il y a une valeur là-dedans, il y a du respect, il faut le reconnaître. Et puis il y a ceux qui veulent effacer. C'est toujours ces deux tendances. Et là-dessus, j'ai la grande surprise de ce jeune garçon, de Mehmet, qui dit, et si on faisait un musée, parce qu'il faut valoriser le village, mais je dis, mais un musée, pourquoi faire? Un musée arménien, enfin un musée des pierres tombales arméniennes. Mais il dit, pour que des touristes arméniennes viennent au village. Je dis, mais si vous n'avez pas peur que les Arméniens reviennent, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de, comme il y avait plus d'un millier de survivants des déportations et des massacres, il y a quand même beaucoup de gens issus de Soleuse dans le monde, beaucoup en France, mais aussi aux États-Unis, un peu partout, et ça a donné un grand peintre qui s'appelle Jean Sem, ça a donné un grand écrivain dont je parle dans le film, Agob Oshagan, merci, voilà. Et là, je me dis, là, si je ne fais pas ce film, si je ne vais pas au bout, je me sentirais vraiment, vraiment coupable de quelque chose envers moi, mais pas seulement envers moi maintenant, envers aussi les autres. C'est-à-dire que la nécessité devenait double. Et là, j'ai écrit, et par bonheur, j'ai trouvé une production, et on a pu aller tourner donc en 2005, en octobre 2005. Mais il se trouve qu'à chaque fois que j'allais dans cette région, j'allais à des moments cruciaux. En 87, c'était la reconnaissance du génocide par le Conseil européen. En 2003, ça bougeait du côté de l'Arménie et tout ça. Et en 2005, on est dans le choix que l'Europe doit faire pour les négociations. Et à chaque fois, les jours, quand on arrivait à Istanbul, les journaux parlaient que de ça. Et je trouvais ça assez... j'avais l'impression d'être au cœur de l'actualité, quoi.
Justement, par rapport à cette vision des Turcs au niveau européen, vous-même, on sent une évolution de votre vision à vous par rapport aux Turcs du début en 1987, où vous avez plutôt des a priori, une certaine crainte, comme vous avez dit tout à l'heure, vous aviez fait un travail sur la diaspora arménienne, puis sur l'Arménie, mais pas sur, sur la Turquie et sur les Turcs. Et on sent que vous aviez besoin d'un coup de main, d'une aide, donc là, de la, en 87, de l'Arménienne qui avait des moyens, qui était mariée à un Turc. Est-ce que le fait qu'elle soit mariée à un Turc vous a également incité à repartir à Soleuse avec moins d'a priori, ou... enfin, on sent qu'il y avait vraiment une évolution, à partir d'une crainte vers une plus grande ouverture et un partage et une richesse humaine.
Mais vous savez, il y a un tas de tabous qui continuent encore. À l'époque, les tabous étaient encore plus... chape de plomb, quoi. C'est-à-dire, par exemple, moi j'ignorais qu'il y avait autant d'Arméniens à Istanbul. C'est-à-dire que j'ignorais qu'il y avait deux ou trois quotidiens arméniens qui, en langue arménienne à Istanbul, qui avaient 17 églises, des écoles. Je ne le savais pas, parce qu'on n'en parlait pas tellement en diaspora. C'était l'époque de l'après-Azala et autres, où les rapports étaient très très durs entre les Arméniens et les Turcs. Il y avait une sorte d'exacerbation sentimentale, romantique, militante. C'était peut-être l'assise de la troisième génération de part et d'autre qui arrivait, c'est-à-dire les uns qui revendiquent mordicus qu'il faut reconnaître cette histoire, qu'il faut que la Turquie se plie à la reconnaissance, et les autres qui ne veulent pas entendre parler parce qu'ils ne se sentent pas responsables de cette affaire. Donc, c'était très dur et il y avait cet tabou. Donc évidemment que j'avais des craintes, je ne savais pas où j'allais, je ne savais pas comment un Arménien pouvait être accueilli dans un village, qui plus est le village de son grand-père, mais ne sachant pas qui y habite aujourd'hui et comment. Donc c'était, je pense, assez normal. Encore, je peux vous dire qu'aujourd'hui, il y a encore une fantasmagorie réelle de beaucoup de gens de la diaspora qui ne mettront pas les pieds en Turquie par crainte de persécution et aussi par orgueil et fierté de dire tant qu'ils ne reconnaîtront pas notre histoire, je n'y mettrai pas les pieds. Il y a encore ça. Bon, ce n'est pas mon cas. Et ces gens-là, quand ils viennent voir le film, ils me le disent. Ils disent, mais vraiment, vous avez eu du courage d'y aller, de faire ce que je trouve pas, c'est pas vrai. C'est pas une question de courage. Moi, j'ai eu aucun courage. J'étais poussé. C'était plus fort que moi, c'était une nécessité, et c'est souvent comme ça qu'on fait des œuvres d'ailleurs, d'art, je veux dire, on fait du cinéma, on écrit de la poésie, on fait de la peinture, c'est parce qu'on on est poussé par les nécessités qui sont à l'intérieur de nous, donc c'est pas une question de courage, le courage après c'est de continuer et de le divulguer aux autres, en fait, finalement de finir la chose, quoi.
D'ailleurs, on le sent bien ça, dans, vous le dites à la deuxième partie en 2003 quand vous y repartez, qu'on vous avait vraiment fait un cadeau en vous invitant au Festival Européen de Cinéma à Bursa, parce que vous disiez que l'histoire était trop lourde et que du coup vous n'osiez pas y aller de vous-même. La question que je me pose, c'est quelle histoire était trop lourde? L'histoire que vous avez vécue en 87, puisque finalement vous y avez été, mais avec une certaine frustration par rapport au maire notamment qui a voulu que vous effaciez vos images, ou bien l'histoire des Arméniens en général?
Je pense que c'est un tout, évidemment que c'est l'histoire des Arméniens de l'Empire Ottoman qui est très lourd à porter pour nous, comme héritage, hein, c'est-à-dire... Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Pourquoi moi je suis né à Yerevan? Pourquoi mes parents sont nés en France? Pourquoi mon grand-père est né dans l'Empire Ottoman en 1900? Pourquoi il y a eu expatriation? Pourquoi on se sent apatride? Pourquoi les gens ont été chassés? Pourquoi il y a eu spoliation territoriale? Voilà, pourquoi tout ça? Donc c'est très lourd à porter de génération en génération, parce que c'est un vrai questionnement. Parce que par exemple, lorsqu'un Français me dit... Quelles étaient les raisons de ce génocide? Parce que, par exemple, il y a des gens qui ne savent rien dire. C'est très difficile à répondre. C'est une question éminemment... c'est vrai, la question est facile à poser, mais la question est très complexe. Il faut raconter toute l'histoire de l'Empire Ottoman, de comment les Arméniens sont là depuis 4 ou 5 siècles, qu'ils vivent... normalement, qui ont leur religion, leur langue, tout ça. Après, il y a des histoires de minorité et de majorité dans les villages, il y a des histoires qui sont considérées comme des citoyens de seconde zone, il y a l'histoire que l'Empire va rentrer en guerre, que l'Empire elle-même est en peau chagrin, et puis aussi qu'arrive à la tête de l'Empire trois fous furieux, je veux dire, il y a aussi ça. Il y a eu Hitler chez les Allemands, mais il y a eu aussi Enver, Talat et Cemal chez les jeunes Turcs, je veux dire. Il ne faut pas le nier, ça, c'est pas tout un peuple qui est responsable d'un acte aussi barbare. C'est aussi des dirigeants qui, à un moment donné, arrivent et qui ont la volonté d'écarter, d'exterminer et d'arriver à leur fin. Bref, mais je vais au bout de la réponse pour dire que la lourdeur, c'est la complexité le lien et la rupture. Il y a eu une vraie catastrophe. Voilà. Mais la catastrophe, elle est pour soi, mais elle est aussi pour l'autre. C'est pas, on ne vit pas une catastrophe tout seul, il y a des conséquences, je veux dire. Et c'est de ça qu'il est question, je pense, aujourd'hui. C'est qu'il faut tirer les fils de comment c'est vécu d'un côté et comment c'est vécu de l'autre. C'est pas juste que d'un côté que les choses se passent. On peut pas juste de son côté avoir un point de vue et ne jamais dialoguer, et ne jamais partager le point de vue de l'autre. Si il y a volonté, évidemment, de parler de la même chose. Si on parle des mêmes éléments.
Justement, vous partez en 87, vous arrivez avec un dialogue, ou plutôt une absence de dialogue, puisqu'on vous refuse de dialogue, pour arriver finalement en 2003, où il y a une certaine évolution, où là, le dialogue commence à s'installer, et par rapport au parallélisme avec la Shoah. Donc là, vous vous rendez compte, par rapport au début de votre documentaire, où vraiment on reprend l'histoire de la Turquie par rapport à ses généraux, à ses dirigeants de l'époque, où là, vous vous rendez compte que finalement la population n'y est pour rien, ou ne connaît même pas cette histoire en fait.
Absolument, mais ça, je pense que pour beaucoup d'Arméniens en particulier, et même d'autres, pour le public, j'en ai fait l'expérience, ils n'arrivent pas à croire que ces gens-là ne savent pas. Alors qu'ils voient très bien qu'ils sont sincères. On voit très bien qu'ils sont pas en train de me mentir ou de me rouler. C'est très compliqué à penser que les gens, encore aujourd'hui, ne seraient pas au courant de ce qui se serait passé. Alors là aussi, il y a des tabous. Je pense qu'ils sont... Bon, il se trouve que moi-même, je ne savais pas que la population de Seleuze, de Yeni Seleuze aujourd'hui, qui veut dire nouveau, donc de la partie arménienne de ce village, était une population amenée de l'extérieur, de force, d'une certaine façon, dans le cadre des échanges de population de la Turquie avec les pays balkans. C'est-à-dire, on renvoie les chrétiens en Grèce, en Bulgarie, et on amène les musulmans de l'Empire ottoman remplir les villages vidés par les Arméniens et les Grecs. Voilà, c'est très simple, et ça s'est fait officiellement, il faut savoir. Plus tard, on appellera ça épuration ethnique, n'est-ce pas, en Yougoslavie. Bon, à l'époque, on appelle ça des échanges de population, bon, ça paraît... C'est être normal. Mais c'est Pomak, justement. Pomak vient du mot Pamagats, du bulgare. Ce sont des bulgares, en fait, islamisés, musulmans. Pamagats veut dire aider. Pomak, c'est celui qui partait pour voir si c'était viable de vivre quelque part ailleurs et qui ramenait sa famille. Donc on les a appelés les Pomak, c'est-à-dire ceux qui aidaient. Donc les musulmans bulgares qui ont été ramenés de la région de Drama à Seleuze vont habiter ce village, et moi je ne le savais pas. Mais je voyais bien dans les visages de ces gens, en 87 déjà, quand je visionnais le film, qu'il y avait quelque chose de familier, pas d'étranger, qu'il y avait quelque chose qui était assez doux. Il n'y avait pas de dureté telle que moi je pouvais imaginer le Turc avec son sabre, avec le couteau dans les dents.
Le fantasme.
Oui, la dureté comme ça. Bah, il y avait quelque chose d'assez doux, notamment chez Chefket Bachol, qui est clair de teint, comme ça, qui est médecin en plus, tout ça. Et c'est seulement en 2003 que je comprends, et on me le dit, qu'ils sont arrivés, eux, dans ce village, qu'en 1923, c'est-à-dire quelques mois après que les Arméniens aient été obligés de partir définitivement avec les Grecs de cette région. Donc là, la question se pose déjà autrement, et que lorsque j'écris pour aller en 2005, là je comprends que le film va prendre une autre allure, je vais traiter aussi de leur histoire. C'est-à-dire que c'est ça qui est intéressant, je pense, dans le film, c'est que le film parle de l'histoire d'une famille, qui est celle de la famille Avedikian, donc la mienne, à travers l'histoire de mon grand-père, mais très rapidement il s'ouvre en l'ensemble des Arméniens de cette région, et très rapidement, il s'ouvre aussi à l'histoire de la Turquie, et surtout à l'histoire de ces gens qui viennent donc de la région de Drama, de Grèce, et qui habitent là aujourd'hui, et c'est à travers eux et avec eux qu'on essaye de comprendre dans quelle situation nous sommes aujourd'hui. C'est un peu ça le parcours du film. Et c'est ça que je trouve relativement nouveau, peut-être, c'est que c'est pas un film historique, il ne traite pas de véracité historique ou ne cherche pas à faire la preuve de quelque chose, mais il parle d'aujourd'hui, de gens qui vivent en Turquie aujourd'hui et qui mettent en avant quelque chose de fondamental qui est qu'ils ne savent pas ce qui s'est passé. Et qu'ils disent, répètent la thèse officielle de l'État qui est, il y a eu la guerre, il y a eu des déplacements de population, ils sont morts, ils sont partis, il y a eu des échanges de population, voilà.
Pour découvrir tout ça, quelle est la raison qui vous a ramené en 2003 bon, effectivement, il y a l'invitation au Festival européen du cinéma à Bursa, mais Est-ce que vous-même, entre 87 et 2003, quelle a été votre évolution? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Avez-vous fait des recherches ensuite par rapport à cette frustration que vous avez pu ressentir?
Vous savez, dans tout le parcours que je fais en tant que comédien ou en tant que réalisateur, périodiquement, je réalise des films qui ont un rapport avec ce sujet, de près ou de loin. Il y a eu le tremblement de terre de 88, par exemple, qui a ravivé une tragédie comme ça, inattendue pour un peuple. Je suis allé donc à l'Enakan, donc à Gyumri aujourd'hui, donc à la frontière turque. Donc j'ai de nouveau eu ce rapport avec la terre, quoi, et avec la fatalité tragique. Entre-temps, j'ai réalisé des courts-métrages, la suite d'un court-métrage que j'avais fait en 91, qui s'appelait Bonjour Monsieur, j'ai réalisé Au revoir Madame et Monsieur Dame, qui sont l'histoire d'un personnage que j'ai appelé Qu'il est chiant. C'est un jeu de mots français, hein, Qu'il est chiant. C'est la fatalité d'un type qui a comme nom Qu'il est chiant. Bon, bah, c'est pas facile à porter, quoi. Bon, mais c'est inventé de toutes pièces pour parler de ce que c'est qu'être apatride et être porteur de quelque chose qui est difficile à vivre. Et quand le type, vers la fin, dans le troisième épisode du court-métrage, veut changer de nom, et il n'y arrive pas vraiment parce qu'il se rend compte finalement qu'autour de lui, il y a un tas d'autres gens qui, un juif, un grec, un allemand, portent des noms à chier, quoi, comme on dit, c'est-à-dire impossible à vivre. Et même la thérapeute qui est jouée par Mireille Dumas dans le film, elle s'appelle Pisdru, donc c'est pas non plus un nom terrible. Donc finalement, il ne change pas de nom. C'est pour vous dire que j'ai toujours été hanté un peu par l'histoire de l'identité. Donc je ne pouvais pas laisser incomplet ou lâcher prise avec ce rapport que j'avais commencé à élucider sur le passé de ma famille, mais aussi sur les gens que j'avais rencontrés dans ce village qui m'avaient paru éminemment sympathiques. Et j'avais vraiment envie de creuser. Donc, c'est, vous savez, je pense, la curiosité et la nécessité, je répète un peu régulièrement ce mot, qui font qu'on a la volonté, malgré les difficultés de la production d'un tel film, d'aller fouiller, de gratter jusqu'au bout, d'essayer de comprendre, d'essayer de restituer. Parce que finalement, ce qui meut un réalisateur, en général, c'est le partage. C'est l'envie de partager sa découverte, sa sensibilité, son vécu avec les autres. C'est ça, le média cinéma, c'est aussi ça.